VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Anastasie Tudiech et Eric Manirakiza dans cette édition du 27 novembre 2015. Au sommaire ce soir, Eric.
Au Burundi, tentative d'assassinat manquée d'un proche du pouvoir et importante saisie d'armes.
Tournée du pape François en Afrique, aujourd'hui le souverain pontife est en Ouganda.
Crise russo-turque, Moscou durcit l'OTAN, Ankara joue l'apaisement.
Au Tchad, l'ONU-SIDA tire la sonnette d'alarme, les adolescents sont les plus exposés au VIH.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Nigeria, un kamikaze s'est fait exploser aujourd'hui au milieu de la foule, tuant des dizaines de fidèles dans le village de Dakasoye. C'était à l'occasion d'une procession de musulmans chiites à 20 km au sud de Kano, dans le nord-est du Nigeria. Selon l'AFP, le mouvement islamique au Nigeria, dirigé par le cheikh Ibrahim Zakzaki, qui organisait la procession, a déclaré qu'il est encore trop tôt pour établir un bilan précis des victimes. Le kamikaze était habillé en noir, comme tout le monde, ont affirmé les témoins.
Au Burundi, un conseiller proche du président burundais a échappé ce vendredi à un attentat, mais l'un de ses gardes du corps a été assassiné. Cet ancien gouverneur de la province de Bujumbura rurale est aussi député. Par ailleurs, 4 personnes ont été tuées hier à Bujumbura et à l'intérieur du pays. La police a fait la plus importante saisie d'armes depuis le début des perquisitions dans un quartier au sud de la capitale. Les précisions avec Christophe Nkurunziza à Bujumbura.
De nombreux policiers ont tiré ce vendredi matin sur un véhicule qui se dirigeait vers le centre-ville de Bujumbura en provenance du quartier de Kajaga à l'ouest. Des hommes armés qui étaient dans cette camionnette avec immatriculation temporaire voulaient assassiner un conseiller de Pierre Nkurunziza. Un des policiers de sa garde est mort au cours des échanges de tirs à l'arme automatique, mais les policiers ont suivi les 3 tueurs qui se dirigeaient vers le marché de Kotebu, se trouvant sur le même itinéraire. 2 d'entre eux ont été arrêtés. Après un interrogatoire, la police s'est dirigée vers une maison se trouvant au quartier Kinindo à l'avenue Nwarane, le commissaire municipal de Missé Niyonguru a affirmé que la police a effectué la plus importante saisie d'armes, 6 roquettes, un mortier 60, 19 Kalachnikov et 19 grenades ont été trouvées dans la maison de Kinindo, en plus d'autres armes et de tenues militaires saisies. Signalons que 2 personnes, dont une femme, ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi à Gitega au centre et à Mugamba au sud du pays. 2 autres personnes, dont un policier, avaient été tuées jeudi après-midi dans le quartier contestataire de Jabé. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
L'ONU a annoncé aujourd'hui la mort d'une fillette soudanaise de 4 ans et d'un casque bleu éthiopien, tuée par des tirs d'obus dans la région disputée d'Abyei entre le Soudan et le Soudan du Sud.
Toujours au Soudan du Sud, Anastasie, quelques 16 000 enfants ont été en relais de force depuis le début du conflit par les différentes parties en conflit, a dénoncé aujourd'hui le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Les filles sont souvent utilisées à des fins sexuelles et pour des mariages forcés.
À l'issue de sa visite au Kenya, le pape François est arrivé en Ouganda, 2e étape de sa tournée africaine. Lors de son passage à Nairobi, François a dénoncé l'injustice atroce que représentent les bidonvilles des grandes mégalopoles africaines, fruit de la corruption et de l'accaparement des richesses par une infime partie de la population.
Il faut préciser que le pape François est déjà arrivé en Ouganda, Kampala, Anastasie. ONU-SIDA tire la sonnette d'alarme. Le nombre d'adolescents morts du sida a triplé depuis 15 ans. La moitié des jeunes séropositifs âgés de 15 à 19 ans vit en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya, au Mozambique, en Tanzanie et en Inde. Selon ONU-SIDA, la plupart de ces enfants ont contracté le VIH quand ils étaient bébés, faute de traitement antirétroviral pour leur mère. C'est le cas de Nani Djelassem, qui est à 17 ans, la porte-parole des jeunes vivant avec le VIH au Tchad.
J'étais infectée à ma naissance. Quelle était ma faute? Je suis ici pour vous dire que je n'ai pas honte de parler du VIH. Mais malheureusement, j'ai perdu ma maman. Heureusement, j'ai eu accès au traitement. Mais beaucoup d'enfants séropositifs n'ont pas eu cette chance que j'ai eue. Et 1 sur 3 sur les 2,6 millions ont accès au traitement. Quand on m'a demandé de parler publiquement mon statut, je me suis demandé pourquoi moi? Est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir une vie normale comme les adolescents, les autres adolescents? Oui, j'ai pensé à tous les enfants et adolescents et je ne pouvais pas rester les bras croisés. Alors j'ai fait une confection. Je n'ai pas honte parce que je vais faire entendre ma voix pour les milliers d'autres adolescents qui ont un rêve comme moi. Le rêve d'aller à l'école, avoir un métier, se marier et avoir des enfants. D'avoir aussi une vie normale comme les autres.
Mani Djelassem, porte-parole des jeunes vivant avec le VIH au Tchad.
On va en Côte d'Ivoire, Eric, où la Cour pénale internationale a affirmé aujourd'hui que l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, est physiquement et mentalement apte à participer à son procès pour crime contre l'humanité qui doit s'ouvrir le 28 janvier. Mais la défense a maintenu que M. Gbagbo est malade, fatigué et fragile, dénonçant plutôt le manque de professionnalisme de deux des trois experts nommés par la CPI pour examiner l'ancien numéro 1 ivoirien.
Guinée, rencontre scientifique jusqu'à dimanche. Ce conclave se penche sur l'accélération de la disponibilité des vaccins contre les fièvres hémorragiques, virales et autres épidémies organisées par le Comité national de lutte contre Ebola.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a rétabli l'obligation de visa pour les Turcs, durcissant ses représailles contre la Turquie, qu'elle accuse d'avoir abattu son bombardier Su-24 près de la frontière syrienne. Mais de son côté, Ankara essaie d'apaiser les tensions. Eddie Sango.
Les Turcs ne pourront plus entrer en Russie sans visa à partir du 1er janvier, a annoncé le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov lors d'une conférence de presse avec son homologue syrien Walid Mualem. La veille, le ministre russe des Affaires étrangères avait appelé tous les Russes se trouvant sur le territoire turc à rentrer en Russie en raison de l'actuelle menace terroriste en Turquie. M. Lavrov explique qu'il ne s'agit pas de vengeance, la menace est réelle, a-t-il dit, accusant Ankara d'avoir dépassé les limites acceptables en abattant mardi, près de la frontière syrienne, un bombardier russe Su-24 qui revenait d'une mission de combat dans le nord-ouest de la Syrie. Pour la Turquie, l'appareil était entré dans son espace aérien et a été averti 10 fois en 5 minutes. La Russie accuse depuis l'incident la Turquie d'avoir partie liée avec l'organisation État islamique et exige des excuses. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a émis ce vendredi les souhaits de rencontrer en face à face son homologue russe Vladimir Poutine au sommet sur le climat qui s'ouvre dimanche à Paris pour parler de l'incident aérien qui a opposé leurs deux pays.
Pour la première fois, Anastasie, de l'histoire de l'organisation, une femme est secrétaire générale du Commonwealth.
Eh oui, il s'agit de l'ancienne ministre de la Justice, Dominique Patricia Scotland, qui a 60 ans et qui vient donc de la Dominique, petite île des Caraïbes. Précisons, Eric, que le Commonwealth regroupe 53 pays issus de l'ex-empire britannique, soit un tiers de la population mondiale. C'est une autre femme qui est à la tête, symboliquement cette fois-ci, de l'organisation, la reine d'Angleterre, Elisabeth II.
Et les Pays-Bas consacreront en tout 350 millions d'euros de plus que prévu pour l'année 2015 à l'accueil et la gestion des migrants pour faire face à la plus grave crise migratoire que connaît l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Des moyens supplémentaires sont également prévus en 2016. Le pays prévoit environ 60 000 demandes d'asile pour l'année 2015, principalement des Syriens, Irakiens, Libyens et Érythréens fuyant leurs pays respectifs.
De nouvelles attaques à la voiture Bélier en Cisjordanie occupée ont fait vendredi, donc aujourd'hui, 7 blessés parmi les soldats israéliens, tandis que les 2 assaillants palestiniens ont aussitôt été tués à l'issue d'une semaine particulièrement meurtrière.
Et la conférence mondiale sur le climat qui s'ouvre officiellement à Paris lundi pour 2 semaines est la prochaine étape d'une mobilisation internationale qui a démarré à la fin des années 1980. Et 195 pays ont 2 semaines pour finaliser à Paris un accord mondial pour lutter contre le réchauffement. Tour d'horizon, Anastasie, des lignes rouges des pays clés dans ces discussions.
On finit très rapidement avec les États-Unis, Eric. Les ultra-conservateurs américains, poussés par les puissants lobbies du pétrole et du charbon, dénigrent la science et fustigent les initiatives de Barack Obama en matière d'environnement sans parvenir pour autant à les bloquer.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco et elle est présentée aujourd'hui par John Linden.
Au Cameroun, l'État exige l'audit avant tout nouveau financement de la Camerco, la compagnie aérienne nationale. Le ministre des Transports l'a indiqué lors de son passage devant les députés à l'Assemblée nationale. Selon le site internet cameruninfo.net, défendant le budget alloué à son département ministériel devant les députés en début de semaine, le ministre des Transports Edgar Alain Mbengo a indiqué que l'État n'investira à nouveau sur Camerco qu'après l'audit de la compagnie nationale aérienne. Au Sénégal, la Sénélec va-t-elle couper l'électricité aux hôpitaux? La question fait débat et dans un entretien accordé au quotidien L'Observateur et repris par le site seneweb.com, Mohamedou Mokhtar Cissé, directeur de la Sénélec, admet que les hôpitaux ne sont pas comme tous les autres clients de la Sénélec. Les gens disent qu'on ne peut pas arrêter le fonctionnement des hôpitaux en les privant d'électricité, mais si personne ne paye, c'est Sénélec qui va arrêter de tourner. Et si Sénélec s'arrête, c'est tout le pays qui s'arrêtera. La Sénélec traîne 100 milliards de francs CFA de créances. Et puis, selon l'APA, l'Arabie saoudite décaisse 3,5 milliards de francs CFA pour l'achèvement de la grande mosquée Salam du Plateau, le quartier administratif et des affaires de la capitale économique ivoirienne. Ici, aux États-Unis, c'est Black Friday aujourd'hui, le lendemain de la fête de Thanksgiving, lorsque les magasins offrent d'alléchantes soldes.
Merci John, c'était la Minute Éco.
Nous retrouvons Timothée Donangmaï pour les sports. Bonsoir Tim.
Bonsoir Eric.
Comme d'hab, c'est le football qui commence votre actualité sportive.
Et oui, précisément, la Coupe de la Confédération Orange 2015 qui rendra son verdict ce week-end. L'étoile sportive du Sahel de Sousse accueille dimanche Orlando Pirates de Johannesburg. En finale retour de cette compétition, Eric, compte tenu des récents événements en Tunisie, la rencontre qui devait initialement débuter à 19h30 en heure locale se jouera à partir de 15h. L'étoile qui a ramené un précieux nul, un but partout de Johannesburg le 21 novembre dernier, attend fermement son adversaire, Eric, un argument de poids pour le club tunisien. Il est invaincu sur sa pelouse cette année, toutes compétitions confondues.
Et rebondissement dans l'affaire du chantage à la sextape impliquant l'attaquant vedette du Real Madrid, Karim Benzema, la Fédération française apparemment de football a décidé de se porter partie civile.
Eh oui, Eric, c'est un communiqué de la Fédération française qui l'a annoncé aujourd'hui, quelques heures seulement après un entretien accordé au Monde par Mathieu Valbuena, la victime de l'affaire qui met en cause Karim Benzema en l'accusant de l'avoir indirectement incité à payer. Ses maîtres chanteurs Karim Benzema a été mis en examen le 5 novembre pour cette affaire en se portant partie civile. La Fédération française aura ainsi accès au dossier et pourrait, en fonction de l'évolution du dossier, prendre toutes les mesures adaptées à la situation, précise la Fédération.
Et Tim, un Kenyan à la Commission des athlètes de la Fédération internationale d'athlétisme, c'est le champion de 3000 mètres, Stipper Ezekiel.
Et oui, Ezekiel Kemboi, donc, qui se réjouit de sa nomination hier à la Commission des athlètes de la Fédération internationale. C'est un grand honneur de rejoindre une liste aussi prestigieuse d'athlètes retraités ou encore en activité. J'espère pouvoir être utile à ce poste pour défendre les droits des athlètes, a déclaré le coureur de 33 ans à l'AFP. La commission des athlètes de l'IAAF doit élire un nouveau président pour remplacer le Namibien Frankie Fredericks.
Et l'agence mondiale antidopage se dit satisfaite de l'état d'esprit de la Russie accusée de dopage organisé.
Toutefois, il reste beaucoup de travail, a affirmé David Hauman, président de l'AMA, qui a rencontré jeudi à Francfort le ministre russe des Sports, Vitaly Mutko. La Russie a été suspendue par la Fédération internationale d'athlétisme, ce qui, Eric, pourrait priver les athlètes russes des Jeux olympiques de Rio dans 9 mois.
Et puis, Tim, le sport préféré d'Anastasie, le basketball.
Et oui, Eric, l'Indy reprend ses droits après le Thanksgiving. À suivre en particulier ce soir les Golden State Warriors qui ont remporté 16 victoires d'affilée depuis le début de la saison et qui défient ce soir les Suns à Phoenix.
Merci, Tim.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
À la... Anastas Itudiech et Eric Manirakiza avec vous. Tout de suite, les dossiers du jour, Eric.
Première escale de Anastasie au Burkina Faso à quelques heures de la clôture de la campagne du double scrutin présidentiel et législatif. Les activistes de la société civile continuent leur travail de mobilisation citoyenne pour inciter les électeurs aux urnes. Les mouvements spécifiques qui ont été en pointe de l'insurrection populaire d'octobre 2014 veulent s'ériger désormais en sentinelle de la démocratie. À la veille de l'élection, ils attirent l'attention des futurs dirigeants sur leur devoir de mémoire vis-à-vis des martyrs afin que leurs sacrifices ne soient vains. C'est ce que nous dit Issa Napon à Ouagadougou.
Après avoir bravé tous les dangers sous l'ancien régime dirigé par Blaise Compaoré et conduit avec l'aide des autres forces vives de la nation, la résistance populaire face au putsch manqué de septembre dernier, les organisations de la société civile qui ont bataillé ferme pour sauver la démocratie veulent s'assurer que les futurs locataires de Kossiam gardent en tête que plus rien ne sera vraiment comme avant dans leur tentative de tordre le cou à toute constitution. Marcel Tankwano, leader du mouvement du 21 avril M21.
5 ans, une fois, deux fois maximum, quelle qu'en soit ta façon de faire, même si tu es bon comment, tu dois partir. C'est ça aussi un grand homme, c'est de savoir s'arrêter au moment où on ne t'attend pas. Celui qui viendra pour diriger notre pays, qu'il sache que les Burkinabés d'il y a 10 ans, 20 ans, ce n'est plus ces Burkinabés. C'est le nouveau Burkina qui en marche. Si tu n'as pas compris ça, tu te mets en marge de cela, tu vas prendre la forêt comme Blaise Compaoré. Un mandat, une fois, s'il est bon, deuxième mandat, et puis il s'en va.
Pour ces responsables de mouvement, la société civile dans son ensemble est aujourd'hui une force que plus aucun dirigeant ne pourrait ignorer ou manipuler. Hervé Ouattara, président du CAR, citoyen africain pour la Renaissance.
Les organisations de la société civile constituent véritablement une force, une véritable force de changement, une force qu'il faille canaliser pour non seulement l'ancrage démocratique, pour le bon devenir de nos institutions. Donc je crois que le nouveau président à venir, de discuter avec les différents responsables de la société civile, pour voir comment la société civile peut contribuer d'une autre manière à ce que l'ancrage, l'enracinement de la démocratie dans notre pays soit une véritable réalité. Et comment cette société civile peut insuffler un autre dynamisme afin d'amener la jeunesse à mieux participer, j'allais dire, dans la construction de cette nation. Parce que c'est une véritable force qui n'est pas à négliger.
Appuyé par l'unité d'action syndicale et des OSC, comme le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples qui faisait déjà un travail de fond, ces mouvements de jeunesse qui ont précipité la chute de Blaise Compaoré et installé un nouvel équilibre de forces, la démocratie devrait se conjuguer avec respect de la constitution et bonne gouvernance. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, toujours une initiative intéressante pour lutter contre la cyberhaine. Constatant un déchaînement de messages haineux sur la toile, un groupe de jeunes internautes burkinabés a lancé la campagne « Mon message, ma vidéo » pour inciter les Burkinabés à cultiver la paix, un moyen de prévenir les crises post-électorales. Zoumana Onogo les a rencontrés pour nous.
Si les observateurs s'accordent à dire que la campagne électorale au Faso est apaisée, il n'en est pas de même sur la toile. Nathalie Bayala, membre du groupe de jeunes initiateurs de la campagne « Mon message, ma vidéo » explique.
Nous voyons des amis, des frères qui ne sont pas du même bord politique, qui ne partagent pas les mêmes idéaux, qui s'échangent des phrases ou des expressions, des messages qui ne sont pas vraiment, vraiment pour un Burkina uni. En griffe, nous sommes les meilleurs, vous avez dîné avec le diable. Qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas le diable? Est-ce qu'on peut dîner avec le diable et ressortir sans les cornes? Des messages où on entend par exemple l'autre qui vient de telle localité, il est plus proche de telle ou telle personne qui était là avant. C'est pour éviter cela que le concept a été lancé. Mon message, ma vidéo. Objectif paix, objectif Burkina meilleur, objectif Burkina 1.
Comment y participer? Suivons Nathalie Bayala.
Il suffit de faire une vidéo et d'avoir un message incitant les Burkinabés à voter et après le vote et accepter les résultats des urnes pour que nous allions tous vers une émergence. Surtout insister sur le message et la qualité de la vidéo et balancer sur Internet. On a des liens WhatsApp et des liens Facebook auxquels on envoie.
Lancée il y a quelques jours seulement, la campagne « Mon message, ma vidéo » connaît déjà un engouement avec des effets correcteurs sur les messages haineux. On écoute Alain Dabilgou, le coordonnateur de la campagne.
Et nous avons eu le premier jour 20 vidéos. Et hier, nous étions à 15 vidéos et les gens adhèrent. J'ai vu par exemple des jeunes burkinabés des États-Unis qui ont parlé par exemple du vote, qui ont dit que le vote, tu peux t'asseoir à la maison chez toi et dire que ta voix ne compte pas, mais ta voix peut permettre à un candidat de gagner. Il y a eu d'autres messages, par exemple, qui parlent de la lutte contre ce côté ethniciste. Il ne faut pas mettre au devant ces affaires d'ethnie, dire que telle personne est de telle ethnie, donc on ne peut pas être président et autres, tout ça. Il y a des gens qui ont dit qu'on est du même pays, on est de la même racine. Et pour le bien de ce pays, il faut effacer ce côté ethnique. Il faut aller plutôt pour un Burkina qui gagne. Il y a des messages en moré, en différentes langues nationales, en fulfoudé, tout ça. Nous voulons toucher à travers cette campagne, il y a tout le monde. Nous avons été contactés par le site lefaso.net et par la télé BF1 qui veulent nous aider à aller plus loin que ça.
Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, vient de publier son rapport annuel sur les pays les moins avancés. Cette année, l'accent est mis sur la transformation de l'économie rurale dans les 48 pays les moins avancés que compte la planète, dont 34 sont africains. Rolf Streger est le chef de la section des pays les moins avancés à la CNUSED. Il est également le coordinateur de ce rapport. Au micro de John Lyndon, il commence par expliquer ce qui a motivé la rédaction de ce rapport.
La motivation pour la rédaction du rapport sur les pays les moins avancés, c'est que la communauté internationale vient d'adopter les objectifs de développement durable que parle d'éradiquer la pauvreté dans le monde. Or, l'éradiquer, ça veut dire également éradiquer là où c'est le plus difficile. Là où c'est le plus difficile, c'est dans les pays les moins avancés et au sein des pays les moins avancés, dans les zones rurales des pays les moins avancés. Donc, sans transformation structurelle des zones rurales des pays les moins avancés, les objectifs de développement durable ne seront pas réalisés.
Vous dites aussi dans ce rapport que les politiques mises en place dans les années 90 par les institutions comme la Banque mondiale n'ont pas réussi, c'était une erreur. Pourquoi ces politiques-là n'ont pas réussi?
Disons qu'une erreur, il est toujours difficile de généraliser. Mais un problème, c'est qu'il y a eu le fait du désengagement de l'État assez radical dans l'économie rurale et pour l'achat des produits et pour les subventions et pour les services de vulgarisation et de conseil. Le problème, c'est que les mécanismes de marché n'ont pas remplacé l'État dans ces fonctions-là. Donc, de ce fait-là, en partie de ce fait-là, mais aussi à cause d'autres développements adverses, la productivité de l'agriculture des PMA, elle a progressé très très peu au cours des 40 dernières années, alors qu'elle a progressé énormément dans les autres pays en développement, c'est-à-dire les pays qui sont en développement mais qui ne sont pas PMA, et dans les pays développés.
Dans ce cas, vous dites pour que ça marche en Afrique, il faudrait que l'Afrique s'aligne sur le modèle de développement chinois. Est-ce que les deux continents, ou tout au moins, est-ce que ça, ce qui a marché en Chine peut marcher en Afrique?
On ne peut jamais copier telles quelles les stratégies de développement parce qu'en tout état de cause, il faut toujours adapter aux spécificités locales. Par contre, un élément qui a été très important en Chine, c'est que la transformation structurelle de l'économie chinoise a commencé par augmenter radicalement le niveau de productivité du travail dans l'agriculture, ça c'est un élément important, et ensuite, allié à ça, c'est la diversification des économies rurales.
Rolf Streger, le chef de la section des pays les moins avancés à la CNUSED, il était au micro de John Lyndon.
Chaque 1er décembre, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. L'ONU s'est fixé l'objectif de briser l'épidémie de sida d'ici 2020.
Il est grand temps que le monde se réveille. Vivre avec le VIH, c'est possible, mais vivre sans le sida, c'est encore mieux.
Voudriez-vous en savoir davantage? Rendez-vous ce samedi à 18h30, temps universel. Dimanche à 20h30, temps universel, et mardi à 18h, temps universel, dans Carrefour Sciences et Santé, Eric Manilakiza sera en votre compagnie.
La transition politique en République centrafricaine est prorogée jusque fin mars 2016. Ça n'est pas exactement une surprise. Le calendrier électoral, initialement prévu, lui reste inchangé. Les explications du coordonnateur de l'Observatoire des élections, Maître Maurice Sérémalé, au micro de Pascaline Magalé.
Nous, au niveau de l'Observatoire national des élections, ou en un mot, nous les membres de la société civile centrafricaine, informés comme les autres acteurs sociaux au niveau de notre pays, nous avons été informés de cette décision de nos pairs de la CAC, une décision que nous saluons à sa juste valeur. Parce que dire que la transition devait finir le 31 décembre, alors qu'à cette date, rien ne serait encore fait. Par exemple, l'élection. D'après le chronogramme de l'Autorité nationale des élections, le référendum, c'est pour le 13 décembre et le premier tour, le 27. Nous avons salué à sa juste valeur cette décision pour la simple raison que ça va permettre à nos autorités de bien préparer d'abord les échéances, le processus électoral. Donc voilà, nous saluons à sa juste valeur cette décision.
Pensez-vous que cette prorogation permettra aux autorités de transition d'organiser des élections législatives et présidentielles crédibles? Transparente.
À l'allure où vont les choses, si on devait vraiment les organiser maintenant, ça va être en violation avec les dispositions du code électoral. Je peux citer par exemple la carte d'électeur. Pas plus tard, le mercredi dernier, les responsables de l'Autorité nationale des élections avaient affirmé que les cartes d'électeur seront imprimées, distribuées sans les photos. Alors que ça, c'est en violation aux dispositions de la loi numéro 13003 du 13 novembre 2013 portant code électoral de la République centrafricaine. Donc, ça va vraiment les permettre de mieux organiser les choses, de faire en sorte que les cartes d'électeurs, et chacun va se retrouver avec sa photo. Ça va vraiment nous éviter les cas de fraude des consorts.
Le coordonnateur de l'Observatoire des élections, Maître Maurice Sémalé, qui répondait aux questions de Pascaline Magalé.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine, vos points de vue dans RM Show. Envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-31-40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
The original girls of Dollywood, they're from them case, all y'all picking them and telling them boss. Here I be telling y'all, beat them now. Hear this, them got the priceless body and the insurance ship. Money the girl them want and I eat around the place. Priceless body and the insurance ship. Money the girl them want and I eat around the place. A body priceless, that mean them have to pay. Tell a man that I you around the place. A body priceless, that mean them have to pay.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde était aujourd'hui assurée par Franklin, la réalisation Lionel de Lunanira Gahima. Et la présentation, c'était le duo Anastasie Tudiech et Eric Manirakiza.
Et Eric Manirakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook, chers auditeurs. Vous pouvez partager vos points de vue, vos photos, commenter des sujets ou poser des questions. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA.